Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Masumbuko Kikumbu Donasia. Il est représentant de la société minière de Kilomoto à Kinshasa. Monsieur Masumbuko, bonjour.
Bonjour madame.
C'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Avec vous dans cette émission, nous parlerons de votre personne. Nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger. Nous allons parler de votre parcours à la société minière de Kilomoto Sokimo, qu'on appelait avant Okimo.
C'était un office de mine d'or de Kilomoto.
Voilà, on va en parler. Puis nous parlerons aussi de votre passage dans la rébellion.
Une parenthèse de
votre vie, on va en parler aussi dans cette émission. Avant ça, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né un certain 15 décembre 1949 à Bukavu.
Oui.
Et c'est là où vous grandissez?
J'ai grandi là-bas.
Vous avez passé votre enfance là-bas?
Non, études primaires à Bukavu, études supérieures à primaire et secondaire à Bukavu, supérieures à l'UNASA Kisangani.
Voilà, on va parler de votre enfance à Bukavu. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Ah, comme tout enfant de l'époque, que les études à Bukavu, les vacances au village, et on a vécu comme ça.
Au village, chez les grands-parents?
Chez les grands-parents, oui.
Et comment était la vie au village? Comment ça se passait, cette vie au village?
Oh, c'était une meilleure vie, parce qu'on jouait, après les jeux, on apprenait aussi beaucoup auprès des parents, des grands-parents. On apprenait à faire la chasse, on apprenait à faire des pièges pour attraper des gibiers, et c'était une bonne vie.
Vous aviez quel âge quand vous avez appris à faire la chasse?
Ah, on commence très tôt. Dès qu'on atteint les 10 ans, on commence à apprendre à chasser les petits gibiers et on évolue jusqu'à accompagner les grands pour la grande chasse.
Et là, vous allez dans la forêt?
Ah, c'est certainement. Nous sommes des forestiers.
Pieds nus?
Absolument. Les chaussures, ça c'était seulement pour les dimanches.
Pour aller à l'église?
Oui, les dimanches seulement on mettait les chaussures, mais tout le reste du temps on jouait pieds nus, on était parfois tous nus, on était bien.
Et vous n'aviez pas peur des insectes, des petits serpents dans la forêt
Ah, les parents nous enseignaient comment se comporter vis-à-vis de tous ces insectes, les serpents qui sont dangereux. Il y avait même à nous apprendre comment arriver à les mettre hors d'état de nuire, à les tuer. Tuer un serpent par exemple. J'ai commencé à le faire quand j'étais encore jeune. Si j'attrape un serpent, je le tue et on le mangeait.
N'importe quel serpent?
Oui, mais c'était un ennemi. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Et pour être certain qu'il est hors d'état de nuire, il faut le manger et le digérer.
Vous les attrapiez comment? Avec vos mains ou bien...
Non, il faut un bateau. Il faut prendre un monstre de bois, un bateau. Et il faut viser la tête. Si on vise la queue, le serpent va vous mordre. C'est pourquoi il faut nécessairement viser la tête. Et dès que vous avez maîtrisé la tête, et vous l'avez.
Alors, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir, c'est sur des conseils des vieux du village. Quand le soir, on se retrouvait, ils nous racontaient des contes, des événements qui étaient passés dans l'ancien temps. Et ça nous mettait un peu en alerte. Comment pour travailler, comment pour nous comporter envers les autres. Et ça nous permettait de savoir vivre en société.
Et là, c'était autour d'un grand feu.
Parce que le soir, chez nous, il y a un feu qu'on fait dans une case, hein, à deux portes. C'est là où tous les hommes se retrouvent. Les femmes ne s'y retrouvent pas. Si la femme est là, c'est-à-dire qu'elle est convoquée peut-être pour un événement. Mais sinon, tous les hommes sont là et c'est là où ils mangent.
Cette tradition continue jusqu'à aujourd'hui?
Bon, avec tous ces événements qui se sont succédés, les gens se sont éparpillés, on se cache, il y a la guerre, il y a l'insécurité. Ça fait que cette vie-là n'est plus d'actualité. Peut-être dans cet village reculé, mais pour le moment, ça a diminué.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Une enfance moyenne. Nous n'étions pas très riches, mais la famille possédait quelques biens en ville, à Bukavu, où on apprenait aussi à vivre comme des gens. J'ai appris à conduire, madame, quand j'avais 13 ans. À 13 ans, je conduisais une voiture.
À Bukavu.
À Bukavu. Ce n'est pas facile de le faire à cet âge-là, mais comme on avait des biens à la maison...
Et puis à cette époque-là, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir une voiture?
Non, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir une voiture. Nous étions un peu privilégiés.
Quand même...
C'est pourquoi j'ai dit que c'était
une
enfance moyenne.
Fait.
Ce n'était pas des grands riches, mais on n'était pas très pauvres non plus à l'époque.
Vous êtes marié?
Je suis marié et père de 7 enfants.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas les calomnies. je n'aime pas faire du mal à quelqu'un. Je suis peut-être d'une éducation chrétienne et ces valeurs que les parents nous ont transmises depuis la jeunesse, je préfère les garder et de vivre bien avec tout le monde. J'essaie, si ça dépend de moi, d'être en bon terme avec tout le monde.
Quel est votre plat préféré?
Oh, les plats. Est-ce que quelqu'un peut me donner le plat de chez moi ici, que me préparait ma mère? Non, on mange maintenant ce que nous avons.
Oui, mais qu'est-ce que vous aimez manger?
Ah, si je pouvais manger comme je mangeais au village. Un plat composé de bananes plantains avec du gibier. Ça me ferait du plaisir. Mais est-ce que j'aurais ça ici?
Mais est-ce que ça vous empêche de manger des bananes plantains? Il y en a beaucoup à Kinshasa, non?
Il y en a beaucoup, mais...
La manière de préparer
la
ça?
La manière de préparer de ma mère diffère de manière occidentale qu'on nous a donné. Il faut mettre ceci, il faut mettre des... Je ne sais pas ce que les mamans appellent
toutes les épices qu'on veut mettre pour la sauce.
Nous, on ne mangeait pas ça. Il n'y avait pas d'épices. Si on met tout au plus l'huile et le sel, ça suffit. Maintenant, on mange des poulets qui ont 6 mois ou 10 ou une année dans les frigos, ça ne va pas.
Alors, vous avez fait vos études primaires à Bukavu, primaire et secondaire à Bukavu.
Oui.
Vous avez fait quel genre d'études aux humanités?
Aux humanités, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai appelé le cycle d'orientation, parce que nous, on faisait d'abord le cycle d'orientation. À partir de la troisième année secondaire, et je me suis fait inscrire en section scientifique. Après la quatrième année secondaire, on choisissait maintenant de faire soit la biochimie, soit les maths physiques. J'ai préféré faire la biochimie. Mais arrivé en sixième, après la cinquième année, j'ai changé. J'ai fait la section pédagogique. Et j'ai obtenu mon diplôme d'état en section pédagogique.
Pourquoi tous ces changements?
Bon, il y avait beaucoup d'événements. Nous avons subi aussi les événements de la rébellion de 64. Ça a empêché à certains de nos collègues même d'étudier. Et parfois, les professeurs manquaient, ont changé d'école. J'ai étudié à ce qu'on appelle aujourd'hui Institut d'Ibanda, que nous appelions Athénée d'Ibanda. Il y avait aussi un autre institut de Bagheera qu'on appelait Athénée de Bagheera. Alors, par moment, on fusionnait les sections. Tantôt, vous retrouvez tous ceux qui sont de la section scientifique vont à Bagheera, tantôt tous ceux qui sont de telle section vont à Ibanda. Et les courses qui étaient chez moi à Kadutu pour aller à Bagheera, c'est une dizaine de kilomètres à pied, matin et le retour.
C'était long pour vous?
C'était long pour moi et ça nous obligeait parfois à prendre des décisions un peu difficiles.
C'est comme ça que vous avez décidé de changer de section et faire la section pédagogique?
Oui, oui.
Vous êtes détenteur d'un diplôme en gestion des entreprises de l'université de Kisangani?
Oui. Nous, on appelait ça INASA Campus de Kisangani, à notre temps. Et après les études secondaires, j'ai obtenu le diplôme d'État et je suis allé me faire inscrire à l'institut qu'on appelait IGE, Institut de gestion des entreprises, qui était un institut facultaire de l'UNASA, campus de Kisangani. C'est là où j'ai terminé.
Pourquoi avoir choisi cette formation en gestion des entreprises?
Bon, il y a plusieurs raisons. La première est que si je peux continuer à faire la pédagogie, j'étais orienté directement vers l'enseignement. Et le métier d'enseignant, c'était un très beau métier, comme on l'appelait, mais aussi à beaucoup de contraintes. Mais pour diversifier et pour ouvrir une voie à une formation ou même une profession un peu plus élargie, et j'ai choisi de faire la gestion des entreprises.
Et c'est comme ça qu'après vos études, vous avez été engagé directement à l'OKIMO?
Pendant que j'étais en première licence, quand j'ai terminé la première licence, je suis allé faire le stage à l'OKIMO. Office des mines d'eau de Kilomoto, comme on appelait à l'époque. Et j'étais à la direction générale de Kilomoto à Bambou. J'ai vu que la vie était encore tolérable à l'époque.
Bambou, c'est où? Essayez de nous situer par rapport
Bambou,
à Kisangani.
C'est à 45 km de Bounia.
Dans l'Ituri?
Dans l'Ituri. Bounia lui-même qui se trouve être le chef du district de l'Ituri. À environ 700 km de Kisangani. Et de là, pendant le stage, j'ai vu que la vie était tolérable. Les cadres universitaires à l'époque, on venait de leur accorder des voitures à crédit. Et les routes étaient bonnes. On pouvait quitter Kisangani et Bounia pour aller à Kisangani en voiture. On pouvait quitter Bounia pour aller à Bukavu en voiture. Et Kilomoto avait un avion, un Fokker, qui faisait au moins deux fois Bounia-Kinshasa par mois. On pouvait venir à Kinshasa. Kilomoto avait un petit porteur qui permettait à ce qu'on puisse faire les tours de toute la concession. Et j'ai estimé à l'époque qu'on pouvait commencer la vie là-bas. Et malheureusement, je suis resté là-bas jusqu'à ce jour.
Radio Capi, Grand Témoin.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Masumbuko Kikumbu Donatien. Il est représentant de la société minière de Kilomoto Sokimo en sigle à Kinshasa. Monsieur Masumbuko, on va parler de votre parcours au sein de l'Okimo, aujourd'hui Sokimo.
Oui.
Vous avez été engagé en qualité de cadre de collaboration en 1977.
Oui, après les stages, on m'a soumis d'abord à un test. Parce que pour être engagé à Sokimo à l'époque, il fallait être testé et savoir si vous avez les capacités. Après le test, on a estimé que je pouvais être engagé pour commencer la gestion du personnel. J'ai évolué à ce service de gestion du personnel et j'ai gravi beaucoup d'échelons, beaucoup de mutations aussi. Après, j'étais engagé comme chef de bureau principal. Ensuite, j'ai été envoyé comme chef de service du personnel au groupe Kilo, à 45 km de Bambou. De là, on m'a envoyé comme pour exercer la même fonction à Wacha, à Moto, comme nous appelons. Et de Moto, on m'a rappelé à Bambou pour venir m'occuper du service social de l'ensemble de la société. Après le service social, on a estimé qu'il fallait que je rentre au personnel, où j'ai dû m'occuper des personnels de cadre et maîtrise de toute la société. Je rappelle ici que la gestion du personnel à Kilomoto à l'époque était centralisée à Bambou Mine. Même le personnel de Kinshasa, toutes leurs formalités, tous leurs dossiers étaient gérés à Bambou. Leurs salaires étaient calculés à Bambou.
Le siège principal de l'Okimo se trouve en Ituri.
Le siège social de l'Okimo se trouve à Bambou Mine, selon les documents de l'époque. C'est maintenant qu'on est en train d'évoluer. On a fait le siège social maintenant à Bunia, mais le siège administratif à Kinshasa.
Alors, un petit rappel historique, la Sokimo a été créée en quelle année?
Ah, c'est une société qui a été créée en 1903. Ça fait environ 110 ans d'exploitation de cette société.
110 ans, c'est pas peu.
Nous avons eu un chef, et l'Okimo a eu un chef qui était très grand, le général Georges Moulard, le Moulard dont on parle, les Bandals.
Ok.
Et il a géré Kilomoto pendant 27 ans, de 1920 à 1947. Et il a beaucoup travaillé. Si je vous dis, madame, que la première centrale hydroélectrique de la République démocratique du Congo actuelle, c'est une centrale hydroélectrique de Kilomoto qui s'appelle Solonyama 1. Et Kilomoto possède aujourd'hui 4 centrales hydroélectriques. Et toutes ces centrales ont été construites par le général Georges Moulard. Toutes les routes qui traversent cette partie de la République ont été construites par Kilomoto.
Mais d'où est venu le nom de Kilomoto?
Kilomoto, c'est une jonction de deux appellations. Il y a eu deux explorateurs géologues australiens qui ont vu les traces d'or à un endroit qu'on appelle Kilo, c'est le nom d'un chef coutumier, mais dans une rivière qu'on appelle, que les Blancs ont baptisé d'ailleurs la Riche, la rivière qu'on appelle Sao. Et dans cette rivière, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'or. Cette rivière a été exploitée à 3 reprises. Et ayant vu les traces d'or là-bas, Kilo c'est dans l'Ituri. Mais ils sont partis aussi à Moto, dans le nord, et ils ont trouvé de l'or encore, dans une rivière qu'on appelle Moto. Et cette rivière se trouve dans les environs dans le territoire de Wacha. Et la jonction de ces deux noms, le nom du chef coutumier Kilo et le nom de la rivière Moto. A fait qu'on a appelé ça les mines d'or de Kilomoto. Qui ont évolué. Ça a commencé par être d'abord une société, puis c'était devenu une régie belge, et puis c'est devenu encore. Jusqu'en 1966, quand le gouvernement congolais a décidé de nationaliser ça, c'est ainsi que c'est devenu un bien à 100%
État congolais.
L'office des mines d'or de Kilomoto.
On va revenir sur votre parcours dans l'entreprise et merci pour cette leçon d'histoire. On est en train de parler de la fonction de chef de personnel.
Oui. Après Moto, où j'étais à Wacha comme chef de service du personnel, j'ai été rappelé à Bambou pour gérer le service social de Kilomoto, alors, de l'ensemble de la société. Après cette partie de gestion du service social, j'ai été ramené encore au personnel pour m'occuper des personnels de cadre et maîtrise. Et c'est à ce moment-là que j'ai rappelé que tout le personnel, la gestion de tout le personnel était centralisée à Bambou, où les travailleurs de certains niveaux, de catégories à partir de 4 et 5, de Ouacha, de Mungwalu, de Bambou, de Kinshasa, jusqu'au niveau supérieur des directions, était géré à Bambou par moi.
On pourrait dire que vous avez gravi presque tous les échelons, sauf celui de PDG ou de l'ADG ou ADGA.
J'ai été au service du personnel. Après le personnel, on m'a affecté à l'audit interne. Et de l'audit interne, on m'a nommé directeur financier. Après la direction financière, à ce titre d'ailleurs, quand quelqu'un est directeur financier et quand on constitue un conseil d'administration de l'entreprise, on prenait deux directeurs de la société pour faire partie du conseil d'administration. Comme j'étais directeur financier, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle administrateur directeur financier. Et ça, c'est maintenant en 1994.
En 1994, ça fait combien de temps, combien d'années que vous êtes à l'Okimo, à la Sokimo aujourd'hui?
Bon, depuis, je dirais, quand j'ai été engagé depuis 77 jusqu'à ce jour, ça va être
77 jusqu'en 2013, on va faire rapidement les calculs, 36 ans. 36 ans,
oui,
que vous êtes là.
Depuis 36 ans, et peut-être d'ici la fin de l'année, si on arrive encore, je vais faire 37 ans.
Vous pensez déjà à la retraite?
Bon, je suis déjà vieux. Hein. Je suis déjà vieux. Si l'entreprise estime que je peux encore être utile, je vais continuer à servir. Je ne peux pas me retirer tant que j'ai encore la force physique et intellectuelle de servir. Si je manque les forces physiques et intellectuelles, à ce moment-là, je pourrais prendre ma retraite.
On a joint quelqu'un qui vous connaît, qui a travaillé avec vous, qui nous a parlé un peu de votre caractère, de votre façon de vivre avec les gens. On va l'écouter, puis on va commenter après.
J'aimerais bien.
Monsieur Ali Samba, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous sommes dans ce studio avec Monsieur Donatien Masumbuko, que vous connaissez sûrement. Dites-nous, comment vous vous êtes connu?
Bon, j'ai connu Monsieur Donatien Masumbuko à Kilomoto. À l'époque, il était chef de service du personnel de l'Okimo. Et moi, je venais d'une mutation de Kinshasa pour Mungwalu. Et c'est là où je l'ai trouvé. Il m'a bien reçu et il m'a bien longé. Un homme très bien, un homme très sympathique.
Et donc, vous avez travaillé aussi à Kilomoto?
Jusqu'à aujourd'hui, je travaille à Kilomoto.
Ah, vous travaillez
toujours?
Nous
travaillons ensemble, d'ailleurs.
Mm-hmm. Et ça fait combien d'années comme ça que vous vous connaissez?
Oh, ça, pas moins de 30 ans.
Alors, il est quel genre de personne? Comment il vit avec ses collègues, avec les gens dans la société?
Bon, c'est un homme bien, d'une très grande formation, un intellectuel bien fait. Je l'ai connu comme responsable du personnel. Et je l'ai connu aussi comme directeur financier. Bon, c'est un homme d'une grande éducation, d'abord dans... Vous savez, les gens de l'Est, ils ont d'abord une grande éducation familiale, rigoureuse. Il aime que le travail se fasse très bien. Il n'est pas injuste.
Pas conflictuel?
Il n'est pas conflictuel. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en conflit avec quelqu'un.
Est-ce que vous le dites pour lui faire plaisir ou c'est vraiment ce qu'il est?
Bon, en tout cas, à mon avis, moi, je n'ai jamais vu conflictuel. Mais vous savez, quand vous êtes responsable du personnel d'une entreprise comme Kilomoto, une entreprise minière, dans un milieu où les gens sont dans les domaines d'exploitation d'or, il y a des petits conflits. Et lorsque vous sanctionnez les travailleurs, et ils trouvent peut-être que vous n'avez pas le droit de les sanctionner, je peux dire dans ce sens-là. Mais c'est un homme correct, un homme rigoureux du point de vue de son travail.
Alors là, ce sont ces qualités que vous êtes en train de vanter, mais quel est son mauvais côté que vous n'aimez pas?
Son mauvais côté que je n'aime pas, il est tantillon du côté travail. jamais vous pouvez lui donner un travail que vous pouvez exécuter automatiquement. Il va entrer dans tous les détails. Bon, c'est les qualités d'un homme qui fait le travail correct.
Alors qu'il aime les petits détails, c'est ça?
C'est ça, il aime les petits détails pour arriver à faire correctement son travail.
Et ça, vous n'appréciez pas trop?
Ça gêne, mais c'est ça la ligne de conduite, quoi.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change en lui?
Pardon?
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change en lui?
Qu'il change en lui?
Oui.
Difficile, une question vraiment difficile.
Difficile, je crois.
J'aimerais qu'il reste le même, qu'il ne change pas.
Alors, on va finir notre entretien. On va vous demander de lui dédier une chanson.
Une chanson de Koffi Olomide. Et je lui dédie à lui et à son épouse. Sens inverse.
Pourquoi sens inverse? Il aime beaucoup cette chanson?
C'est moi qui lui dédie ça.
Et je peut-être que vous connaissez.
Attentivement parce que c'était une chanson profonde et je voulais qu'il partage ça avec
son épouse. Alors je posais la question parce que peut-être que vous connaissez ses goûts. C'est comme ça que vous avez préféré lui dédier cette chanson.
Oui, c'est un homme bien, c'est un bon vivant. J'aurais voulu souhaiter peut-être une chanson religieuse parce que c'est un pasteur aussi, c'est un homme de Dieu, c'est un grand serviteur qui a l'habitude chaque matin qu'il arrive au bureau, il réunit les collaborateurs pour partager une parole publique.
Merci beaucoup Monsieur Ali Famba.
Merci Madame, merci, merci via la radio Capi, vous faites du bon travail. Je suis un de vos fervents auditeurs.
Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur.
Merci Madame.
Alors, Donatien Masumbuko, vous aimez les petits détails.
Bon, d'abord, je suis très heureux qu'il y ait des personnes qui parlent de moi. Il est difficile à quelqu'un de s'apprécier lui-même. Mais quand les autres donnent un avis, là où la personne se trouve être absente, et si cet avis est positif, ça me réjouit. Je suis content de l'observation qu'il a faite sur moi, sur ma famille, sur ma façon de vivre. Et ça m'encouragerait de continuer sur la même lancée comme il l'a dit lui-même, ou même d'améliorer, parce que nul n'est parfait. Mais j'aimerais dire que aimer les détails, c'est ça l'essentiel. Parce que si on voit des choses uniquement globalement...
Le diable se trouve dans les détails.
Oui, le diable se trouve dans les détails. Et en tant que chef, mon travail c'est faire travailler les autres et contrôler. Et le contrôle, ça doit être les détails. Nous avons eu un chef à un certain moment, qui était un directeur technique. Quand il visitait les installations, la mine par exemple, et l'autre jour, les ingénieurs ont dit que cette fois-ci, le directeur technique va venir, il ne va pas avoir de reproches à nous faire. Nous allons tout faire correctement pour qu'il ne puisse pas trouver de reproches. Il a visité la mine, il en était content, mais à la fin, comme il ne devait pas manquer de faire des reproches, il a trouvé qu'il ne rigole. Donc là où passe l'eau, il y avait un petit caillou qui était tombé dedans, et ça a fait une certaine obstruction pour l'eau de passer aisément. Maintenant, le reste de la visite, il ne faisait que revenir sur ce détail-là. Et il est parmi les rares Congolais qui ont permis à Kilomoto de produire jusqu'à 4 tonnes d'or l'an, parce qu'il suivait les détails. Mais quand on voit les choses globalement, on va laisser l'essentiel.
Donc il faut aller même dans les détails, dans les petits
détails. Il faut aller même
détails.
Dans les détails. Parce que nous, quand j'étais chef du personnel, j'avais l'obligation trimestriellement de visiter pratiquement tous les services, surtout les services techniques. Je ne suis pas technicien, mais il fallait que je puisse entrer en souterrain. Quand on me parle par exemple d'un foreur, il faut que je sache quel est le genre de travail qu'il fait, et aussi pour que je puisse comprendre la société dans laquelle j'évolue dans les moindres détails.
Exactement, M. Masumbuko. Alors, il vous a dédié la chanson Sens inverse de Koffi. Il vous demande d'écouter les paroles de cette chanson.
Merci beaucoup.
On va vous proposer cette chanson.
J'aimerais bien l'écouter, je ne sais pas les paroles qui sont dedans, parce que malheureusement je ne suis pas très...
Vous n'êtes pas trop musique, quoi.
Je ne suis pas trop musique.
On va vous proposer quand même cette chanson pour votre plaisir et le plaisir de Madame Masumbuko, votre épouse, comme l'a demandé Monsieur Ali Famba.
Je suis d'accord, je suis d'accord.
Alors Patrick, tu veux nous balancer la chanson « Sens inverse » de Koffi?
Ibrahim Chakou, Pinga Laurent Lorenzo, na Mike Balusa, aussi à Sassa.
Dans mon cœur, De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir Donatien Masumbuko Kikumbu, représentant de la société minière de Kilomoto à Kinshasa. Monsieur Masumbuko, en 1997, vous avez été suspendu de Kilomoto.
Et c'est là où se trouve un problème. Et pour des raisons du changement politique, et nous qui étions mandataires, nous avons été tous suspendus. Et
par le nouveau régime arrivé. L'AFDEL, disons.
L'AFDEL. Mais nous avons été nommés à cause de la qualité que nous avions dans l'entreprise, dans notre directeur financier. Mais on a omis que nous sommes d'abord agents de la société. Et que quand on nous suspend, on suspendait peut-être la qualité d'administrateur que l'État nous a conférée. Mais notre contrat devait évoluer. Et malheureusement, dans l'application, on nous a mis pratiquement en dehors de Kilomoto, on ne percevait plus les salaires, ça a fait pendant plus d'une année. Et nous sommes restés sans savoir ce que nous sommes devenus. Jusqu'à ce que les choses, longtemps après, puissent commencer à se régulariser là.
Et vous êtes resté au chômage comme ça pendant combien d'années?
Et depuis que nous avons été suspendus en juin 1997, nous avons dû reprendre les services pratiquement après la rébellion, après les révoltes du RCD, quand le pays a été réunifié. C'est à ce moment-là que nous avons repris le service.
Et pendant ce temps, vous avez rejoint la rébellion du RCD pendant que vous étiez suspendu.
Pendant que j'étais suspendu.
Petite parenthèse de votre vie.
Je vais la dire. Pendant que nous étions suspendus, le RCD a commencé à Goma. Et pendant que le RCD évoluait à Goma, les dirigeants du RCD à l'époque m'ont nommé, pas seulement moi, c'est toute une équipe qu'on avait nommé un comité de gestion de Kilomoto. Et j'ai estimé que c'était trop dangereux. Parce que pendant l'avènement de l'AFDL, quand les militaires étaient en train de fuir de Bounia, ils s'arrêtaient chez moi à la maison. Ils m'ont pris tout ce que j'avais, même les linges pour les bébés. On m'a enlevé même les chaussures que j'avais sur moi. Et un militaire, à un certain moment, me dira que non, à notre départ de Bounia, on nous indique votre maison. On nous a dit que vous vivez à Kinshasa. Et vous avez fait plusieurs fois l'Europe. Vous avez tous les biens de luxe. Comme j'ai vu qu'on a pris tous vos biens, on t'a sorti de la maison, parce que ceux qui viendront après et qui ne trouvent rien dans la maison, ils risquent de vous nuire avec la famille. C'est comme ça que je suis sorti avec la famille de la maison.
Pour aller où?
Bon, il fallait quitter la maison que nous avions des villas de Kilomoto pour aller vivre dans les villages. Et nous sommes restés dans les villages jusqu'à ce que la situation se calme. On est rentré. J'ai continué à vivre dans la maison de Kilomoto qu'on m'avait attribuée. Mais après avoir tout perdu, sans travail, sans salaire. Et on a commencé à... Même le temps. Parce que si c'est en ville comme à Kinshasa, on peut dire, bon, j'ai quitté la maison, je vais aller me promener, je vais aller voir des amis. Mais nous sommes dans un point où il n'y avait que le bureau et la maison. Pendant que tous les collègues sont au bureau, nous serons où? Nous sommes à la maison. Et c'est une période de la vie qui m'a beaucoup affecté. Après la...
Est-ce que c'est à cause de ce que vous avez vécu que vous avez vécu qui vous a poussé à aller dans la rébellion du RCD?
Pas du tout. La rébellion du RCD m'a nommé d'abord pour rester comme directeur financier à Kilomoto. Mais moi, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai dit que je ne suis pas preneur. Parce que si j'ai échappé, je n'ai pas été tué lors de l'avènement de l'AFDL, c'est peut-être cette révolution ne tuait pas les paisibles citoyens. En Ituri, s'est développé deux choses. Il y avait la rébellion du RCD, il y avait aussi la guerre tribale. Et c'est ça que j'ai eu peur, que je ne sais pas comment les gens se comportent. Et on risque de nuire, d'attenter à ma vie ou à celle de ma famille. Je préfère que les autres puissent continuer d'abord. Quand les choses vont se tasser, à ce moment-là, je peux reprendre. C'est comme ça que la rébellion m'a sollicité pour dire, bon, si tu ne veux pas rentrer à Sokimo, à Kilomoto, comme on appelait à l'époque, viens alors comme conseiller dans la rébellion. C'est comme ça que je suis entré dans la rébellion comme conseiller. Bon, les choses ont évolué. Le premier groupe de dirigeants du RCD-KML est parti. On a créé ce que nous avions appelé... où Bemba était le président.
Et une autre faction du RCD?
C'était PML? C'était le RCD avec le MLC ensemble. Et c'est Bemba qui était le président. Là aussi, les choses n'ont pas marché. Ils se sont séparés. Nous sommes restés encore au RCD-KML seul, avec Mboussa comme président. Et c'est pendant ce temps-là que les négociations de Sans City ont commencé. et les dirigeants sont partis à Sun City et nous sommes restés travailler. Du conseiller, du temps des premiers dirigeants du RCD, je suis passé comme j'étais de cabinet, du temps
RCD quand même ?
Non. L'appellation est en train de partir de la jonction entre le SDKML plus le MLC de Bemba. Après ça, Bemba est parti. On a fait de moi maintenant un commissaire adjoint aux mines et énergie. Jusqu'à ce que les négociations aboutissent, jusqu'à ce que la réunification ait lieu. Et quand la réunification a eu lieu, le pays était pacifié. À part la guerre tribale qui évoluait à Ituri, et j'ai regagné la maison mère Kilomoto.
Et comment vous avez fait pour regagner Kilomoto?
Non, les dirigeants de Kilomoto ont estimé que j'étais suspendu, c'est vrai, mais je restais agent de Kilomoto. Et à ce titre, et comme je n'avais pas commis de fautes professionnelles, on m'a repris comme auditeur, une fonction que j'avais déjà exercée, et puis on m'a élevé comme directeur de l'audit. Après, on a estimé que non. J'ai été aussi au personnel. On m'a remis comme chef de service du personnel.
Est-ce que le fait que vous ayez rejoint la rébellion ne pouvait pas avoir un impact sur votre travail à l'Okimo?
Mais parce que je ne travaillais pas, j'étais suspendu.
Oui, justement, vous avez été suspendu. Pendant votre suspension, vous avez rejoint la rébellion.
Oui.
Est-ce que ça ne pouvait pas avoir un impact sur votre travail à l'Okimo? Vos chefs pouvaient se dire, comme il a rejoint la rébellion, ça ne sert à rien de le reprendre dans l'entreprise.
Non, ils estimaient que j'étais toujours là. C'était un petit coin. J'ai été dans la rébellion, mais je continue à être à leur charge. Parce qu'à un certain moment, ils ont commencé à me payer quand même. Et ce n'était pas un salaire exorbitant, mais j'ai touché quelque chose, j'ai percevé quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai repris le travail à Kilomoto, où j'ai évolué encore.
Vous avez repris le travail et puis vous êtes allé des promotions en promotion.
Bon, d'abord, à ma qualité de le grade que j'ai depuis 94, c'est le plus haut dans l'administration de Kilomoto. Et je suis directeur chef de département. Donc pour le reste, c'est seulement des fonctions qui changent, mais le grade reste le même.
Alors aujourd'hui, vous représentez la société à Kinshasa.
Aujourd'hui, depuis 2009, je représente la société à Kinshasa.
Vous êtes au siège administratif?
Non, je ne suis pas au siège administratif. Le siège administratif se trouve avec l'AD...
Ici à
Kinshasa, en attendant que la situation se stabilise pour qu'il puisse aller à Bounia. Mais si jamais...
La situation n'est pas stable à Bounia?
C'est ça, la situation n'est pas encore stable. Si nous avons perdu les infrastructures, madame. Pour que les gens puissent aller vivre encore là-bas, il faut des travaux, il faut de l'argent, et beaucoup d'argent. Si je vous dis par exemple que à Bambou où nous étions, à 45 km de Bounia, 45 km de Ouacha aussi, il n'y a pas un mètre de câble de courant, alors que Bambou était relié par des lignes électriques. Les gens ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Et ça a un coût. Il faut nécessairement beaucoup de dépenses pour, ou bien il faut construire de nouvelles maisons à Bounia.
C'est à cause de ce qui s'est passé en Ituri que l'Okimo est en faillite aujourd'hui, si je peux le dire.
L'Okimo a subi beaucoup de préjudices, beaucoup de pertes. Même ces mines à Moto, à Ouacha, ils se sont effondrés à cause de l'exploitation de tout ce que les militaires ougandais, congolais faisaient là-bas. Tous ces clandestins qui allaient détruire même ce que nous appelons sto. Ce sont des piliers que nous laissons en souterrain pour soutenir que les mines ne puissent pas s'effondrer. Mais on en a abattu. Les mines se sont effondrées. Le matériel a été pillé. Et l'Okimo a subi vraiment des coups qui font que pour le moment, il traverse une période très difficile.
Elle pourrait se relever quand cette société. Est-ce qu'il y a des chances d'espérer qu'un jour on va retrouver l'Okimo qu'on connaissait, l'Okimo des années, c'est pas 70, 80.
Bon, la formule a changé. D'abord, c'était un office, c'est devenu une société commerciale. Et l'État lui-même, ce qu'il voudra que l'Okimo soit, il le sera. parce que l'or est encore sous terre. Et si l'État souhaite que ça puisse reprendre sous la forme qu'il voudra, ça peut reprendre. Ou ça va reprendre. Parce que nous avons déjà laissé toute la vie là-bas. Où est-ce que nous irons encore? L'État va nous jeter dans la rue comme ça. Il devra trouver des formules pour que le document puisse reprendre, pour qu'on puisse, nous qui sommes déjà vieux, à un certain moment, qu'on puisse nous faire partir, qu'on engage des jeunes pour faire revivre la société. Et les paix encore faire.
Alors, M. Donatien Masumbuko, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous avoir dans Grand Témoin, d'échanger avec vous sur votre vie. Alors, vous avez un mot particulier à adresser à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment?
Le mot particulier que je peux adresser aux auditeurs de Radio Okapi est que notre pays, avec toutes les guerres qui sont succédées, traverse une période difficile. La Sokimo, comme d'autres entreprises de l'État, et même des entreprises privées, ont subi les contre-coups. Il faut que nous puissions connaître la paix, une paix qui peut permettre à chacun de travailler. Chacun doit vivre à la sueur de son front. Et pour qu'on puisse travailler, il faut qu'on puisse connaître la paix. Si nous connaissons la paix dans notre pays peut aller de l'avant.
Monsieur Donatien Masumbuko, merci. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle à tous les auditeurs des radios Okapi qui nous suivent en ce moment que Grand Témoin recevait Donatien Masumbuko, représentant de la société minière de Kilomoto Sokimo sigle à Kinshasa. Merci à Patrick Kiasonga qui était à la mise en onde au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.